France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Antoine Gerber, je suis né le 9 mai 1958 à Paris et je dirige l'ensemble Diabolus in Musica. Les musiques que nous pratiquons viennent du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une période très 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 éloignée et aussi très très proche de nous.
On a beaucoup parlé du répertoire de la musique sacrée, Antoine Gerber, beaucoup, et on a moins parlé encore du répertoire profane qui, de temps en temps d'ailleurs, reprend des pages sacrées, mais y accole un texte profane. Vous, vous allez beaucoup travailler la musique des trouvères,
oui.
Davantage que celle des troubadours, mais si on explique un peu aux auditeurs, la musique des troubadours, Languedoc, précède celle des trouvères, Langdoil.
Oui, cette grande innovation que les troubadours ont introduite en France au XIIe siècle, ce sont les premiers à avoir osé chanter des poèmes d'amour profanes pour une dame, vraiment les premières poésies d'amour, et dans leur langue de tous les jours, et non plus en latin, donc leur langue de tous les jours dans le sud de la France, c'est la Languedoc. Donc ce sont les premiers, puisque le premier connu, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, qui meurt en 1126 ou 1127, je ne sais plus, donc vraiment au tout début du XIIe siècle. Mais ils ont été assez rapidement imités dans le nord de la France, quelques décennies après, par les trouvères, donc toujours des chansons d'amour profane.
C'est ce qu'on appelle l'amour courtois ?
Oui, c'est ça, l'amour courtois, ce fameux amour courtois si étudié par Georges Duby. À propos de l'amour que l'on dit courtois, c'est un article d'une trentaine de pages qui est extraordinaire et qui explique ce que c'est que cet amour courtois pour une dame inaccessible, cet amour compliqué, mais qui en fait a peut-être été vécu aussi de façon tout à fait charnelle, mais qui peut aller jusqu'au mysticisme chez les troubadours notamment. C'est vraiment un sujet littéraire passionnant. Eh bien, ils l'ont chanté dans leur langue de tous les jours et non plus en latin. Ça a été très étudié, évidemment, parce que ça révèle aussi des changements de mentalité, des changements de sociétaux.
Bien me de huisse targé de chansons fer et de maus et de chance, quand je me dois éloigner de la médiure de toutes les valiances. Et si on puis faire voir ventance, que je fasse plus pour Dieu que nusamance. Si on suit moutant trouer l'âme joyance, mais j'ai du corps et pitié et pesance.
Moi, je suis un homme de concert plus que de spectacle. Il y a des ensembles qui ont fait des spectacles magnifiques avec costumes, etc. Moi, j'ai plus fait la forme concert, mais on a fait, c'était une commande de la Cité de la Musique en 2004. On a fait un spectacle sur le Conte du Graal de Chrétien de Troyes. Donc, Chrétien de Troyes, le premier grand romancier français, mais qui est peut-être aussi le premier trouvère. C'est très intéressant. On a deux chansons de Chrétien de Troyes, dont une avec sa mélodie. Et donc, je me suis dit, cette commande de faire un spectacle autour de Chrétien de Troyes, c'était une manière d'aborder la scène différemment d'un concert et de présenter mes fameuses chansons de trouvères dont je suis particulièrement amoureux depuis le début. C'est vraiment un répertoire qui me touche, qui me parle, parfois dans sa naïveté, dans sa simplicité. Mais je constate que ça me touche et que en concert, oui, c'est pas forcément évident à présenter. Donc là, on avait un comédien qui raconte une histoire et c'est pas n'importe quelle histoire, c'est quand même extraordinaire ce que nous raconte Chrétien de Troyes, intercalé avec des chansons de la même époque qui nous parlent d'amour courtois. C'est une très belle expérience. On a beaucoup fait tourner ce concert-spectacle.
Vous parlez, Antoine Gerber, de tournée. Alors ça, c'est là, vous l'avez fait tourner, le spectacle, mais Diabolus in Musica joue partout, en France, en Navarre, mais aussi, évidemment, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde. Comment cette musique médiévale voyage ?
Alors, elle voyage très bien parce que le Moyen-Âge, vous avez des gens férus de Moyen-Âge en France, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un amour du Moyen-Âge très fort en France, mais partout. Et quand vous allez aux États-Unis ou même en Amérique du Sud, ce sont des pays qui se sont peuplés par des Européens. Et ils ont le même passé médiéval que nous. Ils sont pas plus éloignés du Moyen-Âge que nous. Et même, justement, comme ils sont éloignés de leurs origines géographiquement, ils ont un attachement et une fascination pour le Moyen-Âge, sans avoir forcément la connaissance et la fréquentation qu'on a, nous, puisque nous, habitants en France, on est imprégnés de Moyen-Âge. On se promène dans les rues de Tours. Je peux vous montrer 30, 40 bâtiments médiévaux, des maisons profanes, des églises, évidemment. Dans le moindre village, vous avez des bâtiments médiévaux. Et donc, on a cette proximité, au moins, que n'ont pas les Américains et les Canadiens.
And bays, dapples and greys, coach and six little horses. Hush-a-bye, don't you cry, go to sleep, little baby. Hush-a-bye, don't you cry, go to sleep, little baby. Six little horses. Hush-a-bye, don't you cry, go to sleepy little
Sur la transmission, Antoine Gerber, c'est quelque chose d'important, évidemment, la transmission de par ce que vous faites et de cette discographie qui est quand même extrêmement riche, avec presque un disque par an. J'imagine que ça fait partie aussi d'une forme de volonté pédagogique, parce que les livrets sont toujours très fournis, parce que voilà, ça c'est quelque chose d'important, cette manière de passer tout ce que les Dominique Vélard, les Marcel Pérez et autres, et même Robert Massard vous ont donné. C'est à vous aussi maintenant le passer.
La pédagogie, c'est incontournable. Mais avant de parler de pédagogie pure avec des enfants, vous avez cité les livrets. Je suis très content parce que c'est pédagogique aussi. Et moi, j'ai mis un soin, pour certains disques, ça a été un travail énorme, parce qu'encore une fois, je sors de nulle part. J'aime l'histoire, ça fait pas de moi un historien. J'aime la musicologie, ça fait pas de moi un musicologue. Et pour certains répertoires, il faut tout expliquer, parce que le contexte est passionnant, parce qu'il éclaire d'une manière totalement différente. Voilà, c'est pas de la musique pure. Elle est née dans un contexte, elle a une fonction. Le contexte historique détermine l'effectif, détermine la manière dont c'était fait. Le lieu dans lequel était fait détermine la manière dont il faut le chanter. Il y a beaucoup de choses à expliquer. La période, le Moyen-Âge est si vaste qu'il faut quand même cerner les choses. Donc moi, j'ai écrit les notices que j'aurais eu envie de lire. Par contre, parler de musique médiévale à des collégiens ou des lycéens, c'était pas gagné pour moi, c'était pas inné. Donc j'ai commencé ma carrière en faisant des cours sur la musique médiévale, et c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc depuis quelques années, on fait pas du tout ça. J'arrive avec une chanteuse, j'arrive avec Julia ou avec Emmanuel. On pousse les tables, on se met tous en rond, on commence à respirer, à travailler des sons et à les faire chanter. Évidemment, c'est de cette manière qu'il faut aborder la musique du Moyen-Âge. Après, je peux passer dans une ZEP ou des endroits de banlieue très, très sauvages, comme on pourrait dire, et leur faire chanter une polyphonie en latin. Hein. Enfin, pas moi, mais Julia ou Emmanuel, nos chanteurs, font ça de façon incroyable. Ça marche très bien.
Et d'ailleurs, à cette occasion-là, dans une de ces occasions-là, vous aviez rencontré Samuel Paty.
Oui, alors avec le Covid, c'est la dernière que j'ai faite, puisque le 30 janvier 2020, on est passé au Collège Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine parce que Samuel Paty avait rencontré à l'Institut du Monde Arabe Kais Saadi, qui est un musicien franco-algérien avec qui j'ai monté un programme en 2018-2019, justement sur les liens de la monodie entre les chansons de Trouvère et les chants de la nouba traditionnelle algérienne. Donc vraiment deux choses, la carpe et le lapin, ben non, c'est pas la carpe et le lapin, ça fonctionne très très bien ensemble, en plus avec nos instruments, puisque Kais joue du oud, c'est un magnifique joueur de oud, et moi avec mes cordes pincées et ma harpe, c'est deux choses différentes, mais on avait encore un point commun, un langage commun. Et ça marche très très bien. Et donc Samuel Paty a été fasciné par ça et il a voulu nous faire passer au Collège du Bois d'Aulne. Et on l'a rencontré le 30 janvier 2020. Voilà, on a été évidemment horrifiés par ce qui lui est arrivé après. Et je me souviens, donc le lendemain de son assassinat, c'est le dimanche matin, j'ai envoyé un mail à la proviseur en disant... on peut pas rester comme ça, on va revenir. Mais j'ai écrit ça comme une bouteille à la mer, en pensant qu'elle recevrait 3000 mails et que c'était pas la première préoccupation de nous faire revenir. Et elle m'a répondu une heure après en disant « il faut absolument que vous reveniez ». L'équipe des collègues de Samuel le veut aussi, donc on en reparle. Et on est repassé en mars dernier. Il y a deux mois, c'était un moment d'émotion évidemment particulier parce que c'était une journée entière sur le Moyen-Âge et c'est ce que Samuel voulait faire. Il nous avait dit « je vous fais venir une première fois, mais il faudra faire une journée entière avec de l'escrime médiévale, avec de la gastronomie médiévale, etc. » Et c'est ce qui s'est passé en février ou en mars dernier, là, il y a quelques semaines.
La représentation du Moyen-Âge au cinéma, ça, c'est une vraie question.
Ah, c'est extraordinaire, puis ça me fascine. Donc moi, je suis fasciné par le Moyen-Âge, donc j'aime beaucoup le cinéma, j'ai envie de le voir représenté. Et puis la musique est totalement maltraitée. Je reste très, très poli quand je dis maltraitée dans ces films, enfin à de rares exceptions près. Et j'avais vraiment comme rêve d'enfant de participer un jour à un grand film, d'être conseiller musical ou musicien sur une scène ou je ne sais pas quoi. Et ce rêve, il a fini par arriver, même si c'était de façon un peu trop rapide, trop par la bande, on va dire. C'était pas du tout le sujet principal du film. Mais quand même, j'ai pu participer comme conseiller musical à un long métrage récemment, en 2015, et ça a été un grand plaisir.
Qu'est-ce que c'était ?
C'était le film L'Ami, sur la fin de vie de François d'Assise, Saint-François d'Assise. C'est un très bon souvenir de voir de l'intérieur ce qu'est une production comme ça.
Et dans le cinéma, c'est ce qui vous attire, c'est à la fois le récit, le cadrage, le...
Non, c'est le fantasme pur, c'est de me retrouver au Moyen-Âge, moi qui étudie cette période, être vraiment...
C'est la machine à rêve.
Les deux pieds dedans, oui, c'est la machine à rêve. Quand vous voyez certains films qui ont des moyens incroyables, Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui retrace l'aventure des croisades avec 3000 figurants, enfin... Vraiment, on y est au Moyen-Âge, c'est quand même stupéfiant de le voir en vrai, parce qu'il y a des moyens techniques incroyables, donc vous y êtes au Moyen-Âge. Et là, c'est vraiment le gamin qui est devant le film et qui voit ça. J'aurais tellement aimé être conseiller musical avec Ridley Scott.
Merci. Nous n'étions pas là pour être servis, mais pour servir.
Doucement, attention. Tenez.
Et nous serons nés.
France Musique, les grands entretiens d'Antoine Gerber.
On pourrait penser que, à force de comme ça, de regarder tous ces éléments comme ça, des formes du passé évoluer, ça nous amène à la musique d'aujourd'hui. On sait que des compositeurs contemporains, ça peut être Reich, Ligeti, beaucoup, Arvo Pärt, ou je ne sais, qui se sont aussi beaucoup inspirés de ces musiques très anciennes. Est-ce que c'est pas aussi naturel ?
Non, ça me fascine. J'ai toujours beaucoup aimé les compositeurs dont vous parliez, donc Ligeti, les pièces pour clavecin, ou Steve Reich. Ou Arvo Pärt, j'ai été fasciné, surtout quand il a pris des interprètes en plus qui sont spécialisés en musique ancienne. Donc il y a énormément de ponts, ça se fait beaucoup maintenant, mais moi, je me suis toujours trouvé comme une poule devant un couteau. Et moi, j'ai voulu rester pur et dur. C'est mon côté austère, pourtant je suis pas protestant, mais pur et dur Moyen-Âge, voilà, il y a des magnifiques interprètes de musique contemporaine qu'il continue, et moi je vais faire mon Moyen-Âge. Après, il y a une exception extraordinaire pour moi, c'est d'avoir rencontré Thierry Machuel. Donc ça, c'est notre création de cette année. Il se trouve que Thierry est tourangeau depuis quelques années, on est devenus amis et j'ai découvert ses musiques, donc que je n'écoutais pas tous les jours. Hein. Et c'est un magnifique compositeur pour la voix, principalement. Et donc il nous a fait en plus l'amitié d'intégrer notre conseil d'administration et de nous conseiller. C'est quelqu'un d'absolument charmant humainement et c'est un plaisir de le connaître. Donc ça m'a paru naturel de lui demander pour la première fois d'écrire pour l'ensemble. Donc comme c'est le 30e anniversaire en 2021 pour l'ensemble, je me suis dit allez, on saute le pas et en plus c'est ma dernière année hein, moi puisque je vais prendre ma retraite musicale au moins en partie en janvier 2022. Donc je me suis dit on reprend le plus grand succès, le plus grand tube du Moyen-Âge qui est la messe de Machaut. Mais au lieu de reprendre avec les parties de chant grégorien, je vais demander à Thierry Machuel d'écrire des pièces spécifiquement pour les quatre chanteurs de l'ensemble Diabolus in Musica qui chantent cette messe de Machaut. Donc deux ténors et deux voix graves. Donc en l'occurrence, Raphaël Boulet, Emmanuel Vistorki, Olivier Germont et Philippe Roche à la basse. Et vraiment spécifiquement pour eux, leur tessiture, leur manière de chanter, etc. Donc ça a beaucoup intéressé Thierry, mais pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, quand il a commencé à écrire, il m'a dit « Écoute, Machaut, c'est tellement extraordinaire, mais j'ai envie d'y toucher un peu. J'ai envie de rajouter une cinquième voix sur certaines parties, ou j'ai envie de rajouter un instrument, je sais pas quoi encore. Est-ce que tu me permets de toucher à la messe de Machaut ?» Alors je lui dis bah écoute, j'ai pas le téléphone de Machaut, donc on va décider pour lui, bah quitte à créer et aller dans le contemporain, ça m'intéresse beaucoup.
Vous nous dites, Antoine Gerber, qu'après ces 30 ans, vous allez prendre votre retraite musicale, du moins en partie. Ça fait beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'il restera comme activité à la fois musicale et pour le reste ? Quel est le projet ? Quelle est l'envie ?
Alors en fait, il restera le Festival Les Méridiennes qui est devenu une partie...
13e édition cette année ?
Oui, c'est ça, importante de ma vie. En fait, la 12e n'a pas eu lieu comme plein de festivals en 2020, donc la 13e va être très très importante. Non, je vais réellement prendre ma retraite de l'ensemble et c'est réellement une autre direction. Je suis très content que l'ensemble perdure avec Nicolas Sansarla. Et j'avais pensé au départ venir de temps en temps, faire un coucou, diriger une messe ou faire un programme, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire assis sur une fesse entre deux chaises. On y est ou on n'y est pas. Si Nicolas dirige, c'est pas pour que quelqu'un d'autre lui dise « c'est pas ça qu'il fallait faire » et lui tape sur les doigts. Donc je prends ma retraite de l'ensemble Diabolus et Musica, qui va connaître des aventures superbes avec Nicolas, qui est encore une fois un magnifique violiste, violoniste, il peut tout jouer, et un très très bon musicologue. Mais je ne prends pas ma retraite en ce qui concerne le festival Les Méridiennes, donc ça c'est quelque chose qui bien sûr est né de Diabolus in Musica, qui a été au départ organisé par Diabolus in Musica, mais qui n'est pas du tout un festival de musique ancienne. Le concept, c'est le contraire. C'est un festival qui ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres, et qui accueille tout le monde. Donc on a démarré en 2009 avec 10 jours d'affilée, 10 concerts à midi et demi, pour 5 €. Avec, c'était surtout de la musique classique et ancienne, j'avoue, à l'époque, parce que là, je connaissais des copains, des interprètes de très grande qualité. J'ai toujours voulu une grande qualité, hein, c'était pas pour passer la chorale du coin ou des copains de copains, non, c'était vraiment, dès le début, de très grande qualité, avec une grosse exigence artistique, mais un petit coup. Le festival a pris une grande orientation musique du monde, c'est vraiment au moins la moitié de la programmation, si ce n'est plus. Car Tours, qui est une ville très très musicale, on n'est pas une grande métropole, on est une ville moyenne, mais on a une vie musicale extraordinaire, mais on a très peu de musique du monde. Donc j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'en programmais, il y avait une affluence, une meute, on refusait du monde. Donc, et puis ça correspond à mes goûts personnels, j'aime beaucoup ça, moi j'ai les oreilles ouvertes, donc on parle de musique du Moyen-Âge depuis le début, mais moi depuis le début, c'est pas forcément ça que j'écoutais, j'ai écouté d'abord du rock, beaucoup de rock, du folk, et puis petit à petit, beaucoup de musique du monde, ça c'est les frères Touron qui m'ont fait découvrir des grands interprètes indiens de musique arabe. La musique irlandaise me fascine totalement, donc j'ai toujours eu les oreilles très ouvertes. Et donc créer un festival, c'était pas pour créer un festival de musique ancienne du tout, au contraire, c'est un festival pour tout le monde.
Vous allez peut-être avec votre dernière fille, Romane, je me dis que quand même le prénom n'est sûrement pas complètement innocent, nous offrir un moment de musique pour se quitter.
Eh bien, avec plaisir, parce que Romane est très musicienne, donc allons-y.
Merveilleux.
T'es prête ?
Oui. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keep me searching for a heart of gold. And I'm getting
c'est sur cette chanson de Neil Young, interprétée par Romane et Antoine Gerber, que se termine cette série des grands entretiens avec Antoine Gerber. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Hélène Langlois, mixage Bastien Varigaud, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.